Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs et auditrices de la web radio du Rage, bonjour, Zulf Lawan, Sbalkhir Alikoum. Heureux de vous rencontrer dans ce nouveau numéro de notre émission Café des Libertés. Dans ce nouveau numéro, nous allons aborder un sujet très important et d'actualité, très sensible dans notre société, déjà qui coïncide avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, dans ce numéro, nous allons aborder cette question, les violences que subit aujourd'hui la femme algérienne, soit d'ordre physique, moral et même juridique. Donc, pour aborder cette question, comme je viens de dire sensible, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir deux militantes associatives, deux jeunes militantes, je précise, qui sont étudiantes à l'Université de Béjaïa. Actuellement, nous sommes dans les locaux du comité Rage de l'Université de Béjaïa. Donc, on est venu pour les rencontrer. Déjà, ils étaient derrière l'organisation du rassemblement qui a eu lieu hier, le 25 novembre, à la place Saïd, la liberté d'expression Saïd Maqbel. Donc, c'est eux qui ont organisé ce rassemblement où il y avait quand même la participation importante des femmes, des militantes, même des hommes. Il y a avec moi mademoiselle Zizi Wissam, qui est étudiante et militante féministe. Bonjour Wissam.
Bonjour.
Il y a aussi avec moi mademoiselle Haddad Fiziri, aussi étudiante ici à l'Université de Béjaïa, militante féministe. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc la première question que je peux vous poser, justement, ça veut dire comment l'idée est venue pour organiser le rassemblement d'hier et quel est le message que vous voulez transmettre à travers ce rassemblement?
Donc, rebonjour encore une fois. Par rapport à ce... au rassemblement qu'on a organisé hier, donc on s'est retrouvés, moi et ma camarade Wissem, avec d'autres filles. Il y a eu même la participation de filles d'Alger.
D'Alger, oui, il y a Tinehinan Makassé, voilà, qui est l'association Sarawa Fatman Soumar.
Oui. Donc on s'est dit, le 25 arrive, donc pourquoi pas faire une activité, un rassemblement, dans le but justement d'aller vers une création d'une association femmes ici à Béjaïa qui défend les droits de la femme et tout. Donc on s'est dit on va faire ce rassemblement, on verra avec l'écho qu'on va recevoir, avec la participation de la junte féminine, on va voir est-ce qu'il est possible d'aller vers cette création de cette association ou non. Et l'écho qu'on a reçu hier, c'était positif. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui sont venues. On a même pris contact avec elles. Donc, normalement, on est sur le bon chemin. Donc, je disais, la journée internationale de lutte contre les violences, je pense que tout le monde croit que les violences, c'est juste physique. C'est juste le fait de frapper une femme et tout. Mais ce n'est pas ça. Justement, c'est ça le message qu'on essayait... De transmettre hier.
Avant qu'elle soit physique, elle est psychologique,
bien
elle est
sûr,
morale.
Oui. Il y a toute forme de violence. C'est peut-être une insulte. Déjà, on le subit toutes. Chaque jour, chaque seconde dans notre vie, on subit ces violences. Que ce soit dans le bus, que ce soit même à la famille, que ce soit partout. Partout, on subit cette violence.
Très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
Oui, en fait, concernant le 25 novembre, concernant l'organisation du rassemblement. Donc, quand on s'est dit toutes, c'est le 25 novembre, il ne faut pas qu'on le célèbre ou encore qu'on le fête. Parce que ça, concernant les journées internationales, pour que ce soit le 8 mars ou encore le 25, ça s'est devenu en réalité du folklore. Donc, on s'est dit, on va faire un rassemblement exactement pour... C'est pas pour
déjà pour célébrer, alerter, dénoncer.
Déjà pour alerter, dénoncer et rendre hommage aussi à toutes les victimes de ces violences-là, qu'elles soient au sein de la famille, que ce soit dans les rues, que ce soit ailleurs. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Et le but exactement, c'est de rassembler la totalité ou bien de nombreuses femmes qui sont conscientes de la gravité de la situation de la femme algérienne pour qu'on puisse se mobiliser et de se structurer pour la création de d'une association et pourquoi pas d'autres à l'avenir. Et encore pour faire entendre notre voix d'ici là. Donc notre voix, ça elle va être entendue, que ce soit pour les autres femmes, pour qu'elles comprennent déjà qu'elles ne sont pas toutes seules, si elles veulent dénoncer cette violence-là. Parce que actuellement en Algérie, il y a la crainte. Est-ce que, même si elles veulent intervenir ou bien dénoncer ces violences-là, elles ont peur de se retrouver toutes seules. Donc de dire donc déjà, non, il y a d'autres femmes qui luttent pour ça, il y a des abris pour ça. Donc, il faut agir, il faut foncer.
Justement, ça veut dire, c'est dans le sens de votre intervention, ça veut dire qu'il faut sensibiliser les femmes, parce que si il y a une remarque qu'on peut faire sur le rassemblement d'hier, il y a beaucoup d'hommes que de femmes. Donc, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui sont violentées, qui subissent des agressions sous toutes ces formes. Donc il y a un travail de sensibilisation de fond auprès de ces femmes, notamment les victimes, pour faire entendre tout d'abord leur voix et leur souffrance.
Oui, exactement. Dans le rassemblement d'hier, malheureusement, il y avait beaucoup d'hommes. Et d'ailleurs, c'est pas, on dit pas malheureusement, mais
Heureusement, donc il y a
c'est
des...
heureusement, donc
C'est bien qu'il y ait d'autres femmes.
Il y a des hommes qui sont conscients des violences que les femmes subissent. Mais aussi, c'est qu'il faut comprendre le fait qu'elles ne sont pas là, c'est que déjà c'est une violence. Le fait qu'elles n'ont pas pu venir à un tel rassemblement, c'est qu'il y a déjà une violence. Il y a les interdictions, le fait déjà d'apparaître ou encore de donner sa parole publiquement, c'est interdit.
Donc c'est dans ce sens que vous voulez mettre en place une association qui fait dans l'objectif de faire connaître les souffrances des femmes et des agressions ou la violation de leurs droits.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais aussi de les sensibiliser, de les rendre plus conscientes. C'est pas de les rendre, c'est pas par notre biais, parce que je suis sûre qu'elles sont déjà conscientes, mais de leur donner du courage d'agir. C'est le plus important. Mais d'être consciente, je suis sûre que chaque femme, la majorité des femmes, elles sont conscientes des violences qu'elles subissent.
Moi, je ne pense pas que la majorité est consciente de ça. La preuve, c'est que la dernière fois, quand on a fait l'appel et on l'a affiché à l'université, et on a eu deux camarades qui sont partis faire une sorte de questionnaire
Pour savoir l'impact,
pour savoir est-ce
l'adhésion.
que, non, pour savoir est-ce que les femmes sont conscientes de ces violences. Ben, ils ont rencontré 15 femmes, je pense, 15 étudiantes. Il y a eu 10 étudiantes qui ont dit que non, on subit pas les violences. Donc, le taux de conscience est vraiment bas. C'est justement là où on doit se montrer, on doit avoir cet objectif de faire conscientiser les femmes beaucoup plus sur leur situation, parce que, comme je l'ai dit, je pense pas qu'elles sont conscientes de ça.
Ou est-ce que justement dans ce domaine, ça veut dire est-ce qu'elles sont conscientes ou non, est-ce que le contexte social, le contexte culturel de notre société, qui est de plus en plus une société conservatrice, ça veut dire avec des arguments religieux et culturels, n'a pas aidé à étouffer leur voix, ça veut dire que la femme soit réprimée d'une manière ou d'une autre?
Et certainement, ça joue un énorme rôle, que ce soit les traditions, que ce soit la culture, que encore la religion, qui est un élément, je pense, phare par rapport à l'oppression des femmes actuellement en Algérie. Parce que en utilisant la religion dans le code de la famille, parce que c'est un code qui est inspiré par la charia, donc c'est déjà une oppression. Et ou encore on rencontre maintenant c'est des imams dans des mosquées qui font toute une fatwa sur la femme, sur la façon comment elle doit se comporter dans notre société et tout, ça joue un énorme rôle. C'est vraiment les axes forts qui font opprimer la femme actuellement en Algérie.
Donc, c'est le moment de déconstruire ces arguments culturels et religieux et aller vers un nouveau modèle de la relation, notamment familiale, conjugale, surtout entre l'homme et la femme.
Oui, parce que y a aussi un autre élément qui est qui est l'éducation. Parce que si on regarde dans notre société, par exemple, c'est la maman qui comment dire, c'est la maman qui s'en occupe beaucoup plus des enfants. Donc c'est elle qui les éduque plus. Mais ça n'empêche, avec l'éducation qu'elle a eue, donc c'est une éducation de génération en génération, elle est en train de se répéter. Donc c'est une éducation qui fait des inégalités entre le garçon déjà.
J'allais consacrer même dans le système éducatif
algérien.
Oui,
dans le système éducatif aussi, c'est une éducation qui fait de l'indifférence entre le garçon et la fille depuis le petit âge, depuis leur âge petit. Donc c'est vraiment, ça joue vraiment un rôle énorme.
Très bien. J'ai une autre question, ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on voit des jeunes filles comme ça militantes, féministes, qui prennent des initiatives pareilles. Qu'en est-il réellement aujourd'hui du mouvement féministe en 2017? Je veux bien avoir votre avis en tant que jeune militante féministe.
En réalité...
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un recul, une avancée, il y a une certaine stagnation?
En fait, c'est pas seulement en 2017 que ça a commencé le recul, mais je pense depuis les années 2000. C'est pas un recul, un point d'extinction, mais ça n'empêche que... Il y a une régression concernant le mouvement femme. Parce que avant, par exemple, si on regarde le mouvement féministe en Algérie, ça a commencé avec les Moudjahidettes, elles ont combattu déjà
Elles étaient à côté de l'homme durant la guerre de libération.
Elles étaient à côté de l'homme pour combattre le...
C'est pas elles étaient à côté, elles étaient avec l'homme.
Oui, à côté, elles combattaient ensemble, donc voilà. Être à côté, c'est déjà... Et ils étaient égaux. Voilà. Elles prenaient les armes... et lui aussi, donc elle s'occupait beaucoup plus de l'infirmerie, mais ça n'empêche, elles étaient combattantes, ils étaient combattants côté l'autre. Mais juste après qu'on a eu l'indépendance, donc ça n'empêche, ces moudjahidettes là, elles sont restées dans le mouvement. D'ailleurs, il y a eu la création d'une association pour garder le côté développé de l'Algérie, je pense. Donc c'est l'État qui a donné cette opportunité. Et d'ailleurs, elles ont mené un mouvement contre le statut personnel qui a, même à cette époque-là, il était issu de la charia. Donc elles ont mené tout un combat concernant ça. Et juste après, il y a eu une évolution. Parce que la femme, elle commençait à sortir,
à travailler, à prendre des postes de responsabilité
donc,
importantes.
Donc, elle était, oui, des postes beaucoup plus dans l'éducation, la santé, mais ça n'empêche, ça reste des postes.
Oui.
Donc, le fait, elle travaille. Donc, elle a acquis une certaine autonomie. Mais aussi, il y a eu une massivité dans l'intégration des petites filles dans les écoles et tout. Il y avait même des écoles mixtes. Donc, à partir de cela, ça commence vraiment. Après, même après, les femmes, elles commençaient à se regrouper dans des mouvements, dans les années 80 aussi, 70, 80, elles commençaient à se regrouper dans des associations et tout, même si c'était des groupes, encore des associations clandestines, elles étaient dans la clandestinité, ben ça n'empêche, elles activaient. Exemple de ça, elles ont même pu créer un théâtre féminin. Donc il y a eu une évolution. Non. Les femmes commençaient à s'imposer
dans la société.
Et faire entendre leur voix. Mais ça n'empêche, avec l'arrivée du code de la famille en 84, elles étaient opposantes. Elles étaient opposantes.
Il y avait des mouvements
Il y avait la grande démarche qui a connu le mouvement femme en Algérie à cette époque-là. Elle faisait même face aux islamistes intégristes et tout. Mais juste après, exactement avec l'arrivée du fils et tout,
il y a la dessinée noire.
La dessinée noire, exactement, avec la dessinée noire. Mais si elle restait minime, mais ça n'empêche, il y a eu une régression. Donc, il y a eu une régression par rapport au fils et tout. Donc, ça freinait un petit peu le mouvement femme. Ça freinait, c'est pas un petit peu, mais ça freinait vraiment le mouvement femme. Donc, restaient des petites associations et tout. Et elles n'activent plus dans, dans le terrain, quoi. Mais plutôt, ça s'est devenu des débats de salon. Des
D'accord.
salons, et ça touche pas énormément des couches dans la société, mais c'est juste la couche intellectuelle.
Justement, ça veut dire si on parle du mouvement féministe, vous, en tant que jeune génération, ça veut dire en tant que jeune, la relation avec l'ancienne génération de féministes, est-ce qu'il y a une bonne communication? Est-ce qu'il y a une transmission du flambeau? Ou il y a une rupture ou un conflit de génération de militantes?
Je ne peux pas dire qu'il y a un conflit de génération. Je suis contre cette idée. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais moi, je suis contre. Il n'y a pas de conflit de génération. Déjà, moi, par exemple, ces militantes-là anciennes, je ne les connais pas.
D'accord.
Je ne les connais pas carrément.
Donc,
Donc,
il y a un
il peut
problème
pas.
de transmission.
Il y a un problème de transmission, il y a un problème de contact. Donc, il ne peut pas y avoir un conflit tant qu'on ne les connaît pas. On ne
D'accord.
se connaît même
Est-ce que
pas.
cela, ça veut dire, ça veut dire cette coupure qui existe entre les générations de militantes, est-ce que ça n'a pas contribué pour affaiblir le mouvement féministe?
Je pense que oui. Ça a joué un rôle important dans l'affaiblissement du mouvement féministe, oui.
Et voilà.
Oui, exactement. Je suis tout à fait. Je vais suivre la même idée de ma camarade en disant qu'il n'y a pas eu de conflit. Parce que il y a eu une coupure du mouvement femme et juste après il y a eu la nouvelle génération. Donc il y a pas eu de transmission de flambeau. Même ça n'empêche, même si on les connaît toutes, moi personnellement je connais beaucoup de femmes, mais la transmission de l'idée ou encore de dire que ils nous ont formés, ces militantes-là nous ont formés et tout, ben il n'y a pas eu malheureusement ça. Parce que je suis sûre, s'il y a eu une contribution pour la nouvelle génération, ben je pense que le mouvement femme, il sera pas en recul.
D'accord. Et vous, maintenant, comment vous voyez l'avenir du mouvement féministe?
Exactement, c'est qu'en quelque sorte, on essaye de rebondir tout un mouvement, quoi. Donc c'est vraiment difficile. Parce que c'est comme si cette culture-là de lutte, elle commence à disparaître. À disparaître, donc c'est comme si on essaye de la faire revivre.
D'accord.
Et c'est vraiment difficile, mais ça n'empêche, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc avec le peu de moyens qu'on a, avec le peu de participation, d'ailleurs, l'objectif de la création des associations et la mobilisation des femmes, ça va aider à.
Surtout, il y a, je pense, importance, urgence même de créer des liens, des passerelles entre les différentes dynamiques qui existent déjà au niveau national. Parce que de
Oui.
cette manière, éparpillée dans chaque groupe de filles militantes féministes,
Ça aide pas.
actives dans son côté, ça donne pas, ça crée pas un rapport de force.
Je pense que le fait que chacune dans son côté, c'est le fait que tout d'abord, quand on dit féministe, ça veut pas dire qu'on a les mêmes idées. Il y a différents courants féministes. Et chacune a.
À ses positions, sa
Oui,
stratégie de.
à son féminisme à elle, à le féminisme qu'elle défend elle. Par exemple, moi et ma camarade, on est dans un féminisme lutte de classe. On dit que la femme est doublement opprimée, que ce soit par le système capitaliste ou le système patriarcal. Donc, si la femme veut s'émanciper, elle doit d'abord combattre le capitalisme, qui est le
Qui a
premier.
créé les inégalités.
Voilà. C'est
Qui
le
a créé le
capitalisme qui.
patriarcat
Oui.
aussi.
C'est le capitalisme qui s'inspire de ces inégalités. Donc, c'est carrément impossible que la femme ait ses droits dans un système pareil. Donc, il faut le renverser.
À chaque fois qu'on parle des droits de la femme, à chaque fois qu'on parle de violences faites aux femmes, on revient toujours au code de la famille. Depuis 1984, donc, comme vous venez de dire, c'est un code inspiré de la religion. Donc, comment ça veut dire, vous voyez, ça veut dire l'alternative à ce code de famille?
Ben, il faut d'abord parler de son abrogation. Parce qu'il y a dedans, il y a aucune loi qui est en faveur de la femme.
Donc,
Il
il
y a
consacre
aucun
les
article,
inégalités dans tout
oui, il y
le.
a aucun article qui favorise la place de la femme. Elle doit être toujours soumise
Soumise
à son partenaire. Donc
à son tuteur.
voilà, à son tuteur qui est d'ailleurs son tuteur à elle. Après, même si ce mot-là, tuteur, même si en quelque sorte il y aura le décès de son conjoint, ben, il y aura tout le temps un autre tuteur qui va le placer, qui est son enfant. Donc, ça lui laisse jamais ne serait-ce qu'une brèche pour qu'elle soit tuteur d'elle-même. Okay. Okay. C'est vraiment embarrassant parce que on est dans l'obligation d'être un mineur à vie.
D'accord. Donc c'est un code qui consacre voilà le principe que la femme est comme mineure à vie. Donc il y a urgence. Ça veut dire on peut pas imaginer une certaine égalité entre l'homme et la femme où les droits des femmes d'une manière générale seront consacrés et respectés dans le cadre de ce code de la famille.
C'est ça.
Voilà. Donc une autre question, donc c'est aussi toujours dans le cadre législatif. Derrière moi, il y a une loi qui a été adoptée, bon, qui a pris du retard, qui a coulé beaucoup d'encre. Et donc il y a cette loi qui criminalise les violences faites aux femmes. Et cette loi même, il y a des femmes. Il y a pas uniquement des femmes, il y a des gens qui ont soutenu cette loi, ils disent c'est une avancée. Il y a d'autres qui disent non, c'est une avancée, mais quand même, il maintient un certain injustice. Donc, comment vous voyez cette loi?
Donc, tout d'abord, par rapport à cette loi, c'est pas une loi criminalisant les violences en général, mais qui criminalise les violences conjugales seulement.
D'accord.
Elle a été adoptée en 2015, après 9 mois, je pense, de blocage au Sénat par les conservateurs. Mais ils ont quand même fini par céder. Donc, on dit que cette loi est une avancée. Est une avancée pourquoi? Parce que la femme peut aller dénoncer le violeur.
Son mari, son,
oui, son voilà, conjoint.
Son conjoint.
Elle peut le dénoncer. Mais ce qui est en sa défaveur, ou bien ce qu'on dit qu'elle n'a pas apporté un plus, c'est la notion de pardon. Il y a une clause de pardon dans cette loi qui dit que si la femme dépose plainte, elle pourra pardonner à son conjoint.
C'est le pardon, donc il ne sera pas sanctionné.
Oui.
Donc il y a une injustice.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est contre...
Donc le combat est continué pour à ce que cette loi criminalise toutes les violences. Il n'y aura pas de pardon. Donc le violeur ou quelqu'un qui viole les droits de la femme, il doit être sanctionné.
Il n'y a pas que ça seulement. Parce que quand on dit déjà la loi qui criminalise les violences, donc il faut comprendre d'abord que loin de la loi criminalisant les violences conjugales, il y a les lois sur l'harcèlement, il y a les lois sur même l'harcèlement verbal et tout. Il y a ces lois-là, il y a ces pénalisations-là. Mais déjà, c'est une avancée parce qu'il faut comprendre, déjà, avant, on n'osait même pas parler du harcèlement, au-delà du viol. On n'osait même pas parler que dire qu'on se fait harceler. Parce que directement, la faute retombe sur nous, les femmes. On se fait harceler, après ils regardent « Ah, mais parce que t'es habillée de cette façon-là ou de cette façon-ci, par rapport peut-être parce que t'as eu un comportement mal déplacé et tout ce qui s'ensuit. » Donc la faute retombe tout le temps sur nous. Mais avec cette loi, il y a eu la pénalisation de l'harcèlement et tout ce qui s'ensuit, mais ça reste minime. Et concernant exactement la violence conjugale, il faut comprendre que, oui, elle peut aller déposer plainte, mais il y a la notion du pardon. Donc, ce qui joue dans le pardon, c'est que, par rapport à notre société. Donc, c'est pas seulement la femme qui doit prendre la décision de si elle doit pardonner ou pas. Parce que je sais très bien qu'au fond d'elle, elle veut pas pardonner ça.
Mais avec la pression
avec
de la femme,
pression de la famille,
l'environnement.
Et elle sait très bien que elle peut même être rejetée de la part des deux familles, que ce soit sa famille à elle ou encore la famille de son conjoint. Donc, ou encore, elle doit regarder à l'avenir de ses enfants qui vont vivre avec des parents séparés. Donc, tout ce qu'elle peut faire, c'est accepter ce pardon-là.
Justement, ça veut dire ce qu'on reproche, ça veut dire au mouvement féministe en Algérie, ça veut dire qu'on se focalise beaucoup plus sur les femmes. La sensibilisation. Mais aujourd'hui, ça veut dire, si on voit sur le terrain, il y a notre public cible le plus important, c'est la société, c'est le mari, c'est l'homme, d'une manière générale, qui fait ce dépassement. Donc, est-ce que c'est pas le moment un peu d'orienter cette campagne de sensibilisation, de toucher toutes les couches de la société?
Oui, certainement, parce que dans notre combat à nous, plus ou moins, on ne dit pas qu'on doit rejeter l'homme, ou encore la faute est sur l'homme. Parce que chose qui n'est pas vrai, il y a tout un système qui a donné des avantages à l'homme plus que à la femme. C'est ce qui a créé d'ailleurs une société patriarcale. Donc lui, bien sûr, il va profiter de ces avantages-là. Donc Il y a aussi l'éducation, dont je dois revenir toujours sur ça. Donc, ça lui permet de faire subir cette oppression à la femme. Mais ça n'empêche, dans notre combat, on dit tout le temps, par rapport à la sensibilisation, que l'homme, il doit être. Mais ça n'empêche que l'initiation de tout mouvement femme, je dis tout le temps, il faut que ça soit... Que la femme initie
doit être,
ce mouvement-là.
Doit être à l'avant-garde.
La femme doit être à l'avant-garde de son mouvement parce que c'est à elle de se libérer de cette oppression-là.
Aujourd'hui aussi, donc, il y a des partis politiques, des syndicats, des associations. Je pense que ces structures-là, ils ont un rôle important dans la promotion et la protection des droits de la femme et de la lutte contre les violences faites aux femmes, soit à travers leurs programmes, soit à travers aussi la composante de ces structures. Comment vous voyez, ça veut dire ces structures, partis politiques, syndicats et associations, et quel est le rôle qu'ils peuvent jouer?
En fait, il ne faut pas dire que si c'est une association, un parti politique ou encore un syndicat, il ne faut pas se dire que dedans, il n'y a pas du sexisme, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de dépassement. Parce que qu'on le veuille ou non, si je cite un simple exemple, dans des syndicats ou encore dans des associations, c'est pas vraiment un exemple, mais juste pour dire que ça se diffère. Par exemple, dans des partis politiques, moi, je trouve des fois qu'ils utilisent la question femme juste pour gagner.
Pour la forme.
Juste pour la forme, oui. Il y a des partis qui utilisent ça. Je cite un simple exemple. À la dernière élection, les élections qui sont passées récemment, ça fait 2 jours ou 3 jours. Ben, durant la campagne, encore dans les affiches, on trouve pas le portrait de la femme. Soit elles sont présentées dans un carré blanc, ou encore dans une photo de profil où il n'y a pas de visage, ou encore le pire, avec une fleur. Ben, c'est vraiment ignoble de ces parties-là, donc qu'on doit dénoncer d'ailleurs. Parce que c'est comme si maintenant, ils utilisent la femme juste pour participer, parce que la loi leur dit qu'il faut 30% pour la participation. Donc,
justement, comment vous trouvez cette loi qui impose aux partis politiques 30%?
Par exemple, par rapport à cette loi, déjà, il faut comprendre... Donc, elle est bien, cette loi-là, en quelque sorte, elle est bien. Et d'une autre part, elle est inégale. Parce qu'elle est bien, pourquoi? Parce que la femme, elle hésite pour partir, pour qu'elle...
Pour intégrer,
pour
faire la politique.
Ou encore pour faire la politique. Parce que chez nous,
une
femme
qui...
Parce que chez nous, une femme... qui veut apparaître, ou encore une femme qui parle publiquement, c'est un petit peu malsain dans notre société, quoi. C'est une femme qui n'a pas vraiment sa place. Mais ça n'empêche que c'est une bonne loi parce que ça va permettre l'intégration des femmes et leur participation, celles qui sont vraiment engagées.
Voilà. D'accord, donc il doit être accompagné par des mesures concrètes.
J'aimerais revenir au truc des partis politiques et tout, par rapport à la question femme. Moi, je dirais que tout dépend de l'organisation. Par exemple, il y a des organisations qui sont sincères.
Qui encouragent réellement.
Oui, qui encouragent déjà. Quand on a vu beaucoup de rassemblements ici à Bidjaye, surtout à la place Saïd Mokbel. Oui, qui sont organisés par des femmes, des organisations des fois. Le truc, c'est que ces partis politiques, il y a ceux qui ne ramènent même pas leurs femmes. Leur mère, leurs enfants au rassemblement.
De ces partis.
Oui.
Il y a une certaine hypocrisie.
Bien sûr.
Politique.
Oui. Or qu'il y en a d'autres qui font ça. Même leurs militantes du parti ne viennent même pas.
Oui.
Voilà.
Ils sont le porte-parole de leur femme.
Oui.
Si je peux dire ça comme ça.
Ouais, mais quand même, ça veut dire qu'on constate qu'il y a des femmes qui veulent s'affirmer dans la politique, dans les syndicats, dans des associations. Ça veut dire que ça mérite d'être encouragé à l'avenir.
Ça mérite d'être encouragé. Il ne faut pas prendre en considération aussi que c'est facile pour elles. Parce qu'elles reçoivent des insultes, des fois même au point de les harceler et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment difficile de s'imposer en tant que femme politique ou encore en tant que femme déjà publique dans une société misogyne. Donc c'est vraiment difficile.
Et aussi
je vais ajouter seulement un point par rapport à la question politique. Ben, on rencontre maintenant donc des femmes qui sont opprimées par d'autres femmes politiques. Parce qu'une fois arrivé, que ce soit à la peine ou encore une fois arrivé à son poste, ben, elle opprime l'autre femme, alors que pour déjà que qu'elle soit dans son poste, les discours qu'elle avance, c'est quoi? C'est que je serai là, je serai pour la femme algérienne, pour défendre les droits de la femme algérienne. Et une fois arrivée là-bas, c'est un autre discours. C'est en remarque, ou bien je sais pas si c'est tout le monde a suivi les dernières réunions qui a eu à la PN. Ben il y a des femmes qui disent que la femme pour remédier à la question de l'austérité en Algérie, la femme elle doit renoncer à leur paye pour l'État. Donc il y a des femmes qui disent ça. Il y a même la dernière ministre de la solidarité et de la famille qui a dit ça. Donc de voir une femme qui avance ça à d'autres femmes,
au lieu de faire le contraire, d'encourager, de défendre les droits,
ouais. Au lieu de faire le contraire ou encore de les encourager, ben c'est vraiment malheureux, quoi.
Oui. Il y a un autre point, c'est les médias. Parce que les médias, ils jouent un rôle important pour aborder toutes les questions d'ordre politique, économique et social. Mais je veux bien avoir votre avis sur la place des femmes dans les médias, soit écrites, soit audiovisuelles. Donc, est-ce que vraiment la femme aujourd'hui, elle a sa place dans les médias? Est-ce que la femme, elle est, ça veut dire, et les médias donnent une image positive de la femme, ou plutôt une image négatif?
Ben exactement, je pense concernant les médias, il faut vraiment, je trouve, qu'on dénonce ça, parce que dans les médias, ils utilisent la femme comme un objet. Si je cite un simple exemple concernant les publicités, c'est on remarque maintenant, c'est toutes les publicités, ben c'est les femmes qui sont actrices. Qui sont actrices dans ces publicités-là, exactement pour faire marcher leurs produits ou encore attirer la clientèle. Ils utilisent, que ce soit le corps de la femme, que ce soit la voix de la femme ou encore, ben ça devient objet des médias. Et concernant sa participation, ben on le voit tous, je pense, que ce soit par exemple le écrit. Ben, tout le temps, elles sont stigmatisées.
Toujours être dans l'image négative, voilà.
L'image négative, même maintenant, des fois sur les réseaux sociaux. Récemment, j'ai vu une publication. Il y a une journaliste qui faisait de la météo, qui présentait les commentaires, c'était sur la façon comment elle s'est habillée, en disant il reste plus rien par rapport à notre société, par rapport à notre horma et tout ce qui s'ensuit.
Ça veut dire dans notre société, la dignité de l'humain, donc elle est otage de la femme.
Oui.
Et on est allé.
C'est ça. Malheureusement, c'est ça. On rentre même dans la violence conjugale. On trouve que si la femme elle est assassinée, frappée, violentée.
On responsabilise beaucoup plus la femme que le viol.
Oui, voilà, en disant que voilà, elle a dépassé ma horma. Ce qu'on dit tout le monde dans la zone nifil horma, ben c'est ce qui a augmenté les chiffres du féminicide dans le rapport conjugal, je trouve.
Et aujourd'hui, donc, la femme, dans le milieu de travail, elle subit des harcèlements, des intimidations, même l'accès au poste de responsabilité. Donc aujourd'hui, on trouve que la femme, malgré elle est présente sur le marché du travail, elle travaille dans beaucoup de secteurs, mais toujours il y a ces inégalités, il y a toujours la femme exposée à ces harcèlements sexuels, même physiques, psychomorales et tout.
Alors, concernant le secteur du travail, encore la question du travail, ben, exactement, la femme, elle est harcelée, elle est opprimée, mais ça n'empêche, elle reste. Et pourquoi elle reste? Juste par crainte. On trouve que les femmes qui travaillent, elles sont harcelées quotidiennement, que ce soit par leur patron, encore par leurs collègues de travail, mais elles n'osent pas dénoncer ça. Exactement, par crainte de faire perdre leur poste. Et c'est vraiment dommage parce que ça se passe comme ça, qu'on le veuille ou non. Et partout, je
notamment
pense,
dans des entreprises privées.
Oui, notamment dans des entreprises privées beaucoup plus. Donc, par crainte, elles ne déposent pas plainte.
Parce que cet emploi, elle permet à la femme, aux femmes, voilà,
d'avoir
une certaine autonomie.
Économique, voilà. Économique dans notre société.
Moi, je pense qu'on remarque déjà qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la sphère du travail qu'avant. Dans presque tous les pays du monde, pas seulement en Algérie. Juste que ici chez nous en Algérie, les femmes au moins sont payées égalitairement comme les hommes.
Oui.
Ce qui ne se passe pas ailleurs.
Même en Europe, il y a cette inégalité.
Oui. Donc c'est déjà, on peut dire, un plus pour nous. Sinon, par rapport à l'harcèlement que subissent les femmes au milieu du travail, c'est normal que les femmes se taisent, qu'elles gardent le silence. Pourquoi ? Parce que déjà, le fait qu'elles sortent travailler, c'est déjà pour elles une grande liberté. Elle a acquis une grande liberté.
C'est un acquis qu'elle ne risque pas de le perdre.
Oui, donc elle doit garder le silence de peur de perdre cette liberté. C'est pour ça que quand on voit ces femmes toujours... Elle se taise sur ce genre d'harcèlement et tout.
Toujours dans le domaine du travail, donc, on constate que la femme elle est doublement réprimée. Elle est réprimée dans le milieu du travail, avec ses harcèlements qu'elle peut subir, mais aussi quand elle rentre à la maison, en tant que femme au foyer, il a d'autres obligations à accomplir. Est-ce que c'est une situation vraiment très difficile et délicate pour
oui,
la femme?
Exactement, parce que dans le secteur... public, la femme elle travaille et si ça se trouve elle fait le même travail que son conjoint, mais en rentrant à son foyer on trouve que
l'homme va se reposer, la femme
oui,
est...
voilà, on trouve que la femme elle a d'autres obligations que ce soit par rapport à l'éducation de ses enfants, que ce soit de faire les corvées de la maison, mais par contre l'homme il se désengage de ces travaux là. D'accord. Donc, et en plus, un travail, ça reste un travail, mais malheureusement, ce travail-là, il n'est pas reconnu, il n'est pas rémunéré. Donc, c'est une sorte de répression ou une sorte d'esclavagisme, si je peux dire ça. Donc, c'est pas normal qu'un travail qui s'exerce et il n'est pas rémunéré, donc c'est une autre sorte d'exploitation.
Justement, aussi concernant le congé de maternité, beaucoup de femmes demandent à ce qu'il soit augmenté. 3 mois, c'est insuffisant pour la femme.
Oui, exactement. C'est pas du tout suffisant d'avoir 3 mois parce que c'est là que l'enfant commence à se fleurir, si je peux dire ça comme ça, et
non,
du coup, c'est soit elle quitte son travail définitivement pour qu'elle reste élever son enfant, ou encore le donner à une nourrice et tout ce qui s'ensuit, alors que même l'entreprise dont elle travaille, normalement, elle doit subvenir à ce besoin-là, à ce besoin-là d'ouvrir peut-être une garderie ou un centre pour garder les enfants de la femme travailleuse, des femmes travailleuses, mais chose qui ne se passe pas du tout ici. Voilà. Donc, c'est vraiment peu d'avoir 3 mois dans un congé de maternité.
Voilà, donc on est arrivé à la fin de cet entretien. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, un message à transmettre.
En fait, c'est juste un appel. C'est juste un appel pour dire à toutes les femmes, ainsi qu'aux hommes aussi, parce que la question de la violence, ça les concerne aussi. Donc, qu'il faut qu'on se mobilise contre toutes ces violences-là. Et la femme aussi, elle doit plus avoir peur de ce qu'elle subit. Elle doit plus avoir peur de cette société-là. Parce qu'en s'unissant, on aura la force, le rapport de force... qu'il faut avoir pour combattre cette société misogyne et patriarcale.
Merci.
Moi, je dirais d'abord à ces femmes qui sont dehors, qui nous écoutent, tout d'abord de faire le pas et d'aller vers des associations, des comités, même des organisations politiques, au moins de faire le pas, parce qu'elles se mettent toujours de côté. Et c'est à travers ça, déjà par exemple, c'est ce qui est arrivé avec moi, c'est en étant dans une organisation politique qui m'a permis plutôt de prendre conscience de ma situation et de lutter
pour la changer,
voilà,
vers le bien.
Donc je dirais à ces femmes de casser ce silence, de le briser. Et si elles sont dans l'objectif de qu'on a cité pendant le rassemblement d'hier, c'est-à-dire de créer une association, on est là, on ne demande que ça. Plus on est de nombreuses, ce serait mieux. Voilà.
Auditeurs et auditrices de la web radio du Rage, donc on est arrivé à la fin de cet entretien. Donc a été nos invités, c'était mademoiselle, je rappelle que c'était Zizi Wissam, qui est étudiante et militante féministe, et aussi mademoiselle Haddad Siziri, aussi étudiante et militante féministe, qui ont été parmi les organisatrices du rassemblement d'hier à la place de la liberté d'expression Saïd Maqbel à Béjaïa. C'est juste, il est important de rappeler qu'on ne peut pas imaginer une société développée, un pays développé, sans l'émancipation de la femme, sans qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme, parce que cette femme représente en Algérie quand même 50% de la population. On ne peut pas imaginer un développement si on marginalise la moitié de la société. Et l'émancipation de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas une affaire des femmes toutes seules, c'est une affaire de toute la société, hommes et femmes, c'est l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire des associations et des syndicats, d'où la nécessité de créer les synergies, de créer des solidarités pour dénoncer toutes les formes d'injustice que subissent les femmes aujourd'hui. Donc tous ensemble pour une société juste qui garantit tous les droits aux Algériennes et Algériens. Merci.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.